je crois pouvoir dire historiquement ceci. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire.
Nous pouvons changer les conditions de la jeunesse et les conditions de la vie.
Montez l'oiseté !
Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger.
Ashishokiro, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar, silo.
Rap, littérature, révolution.
Bonjour à tous, vous écoutez bien Radio Canu sur le 102.2, émission Montaigne-Oise Thug, rap, littérature et révolution, comme tous les lundis, avec en votre compagnie aujourd'hui, monsieur Bertrand Fibien, chroniqueur émérite, spécialiste de toutes les littératures du monde. Ah, et salut monsieur Bertrand Fibien.
Salut.
Et ainsi que son compère, Albert Tabu, philosophe pertinent, pointilleux, précis, chroniqueur également dans cette émission.
Bonjour.
Qui va nous accompagner aujourd'hui pour une émission, comme d'habitude, magnifique, brillante, sur, je ne vous dis pas le thème tout de suite, ça sera un peu la blague, le suspense du jour. Et c'est pour ça qu'un peu cette émission sous le signe de la blague et du suspense des devinettes va commencer avec une devinette. Alors pouvez-vous me dire, chers auditeurs, quel est le point commun entre ces deux rappeurs ?
Courez, vous m'attraperez pas. Depuis je considère que la terre entière a une dette envers moi. Courez, vous m'attraperez pas. J'ai trouvé les 7 boules de cristal, priez pour que je m'en serve pas. Courez, vous m'attraperez pas.
Orelsan, courez, donc, et ainsi que
Rock. De la mer, pas les corps de ma voix. Regarde la France cramée, parce que j'ai mis le feu. Faut que je porte une cagoule, je crève les yeux. Comme Végéta, rage, les bras croisés. Seul ensuite, du champ, peu m'apprivoiser.
Et oui, alors voilà, hein, petite question un peu difficile, hein, qu'est-ce qui va rapprocher ces deux rappeurs, voilà, un blanc rappeur classe moyenne, avec un rap un peu décalé, et un vrai rappeur de la street, j'ai nommé ROH2F. Hein, alors, vous avez des idées, chers amis chroniqueurs?
Ben oui, nous savons tout. Et le rapport serait à trouver dans les passages qui ont été diffusés.
Exact. J'ai choisi très précisément ces deux passages parce que dans les deux passages, il y a une référence à un manga. Monsieur Tabu, quel est ce manga ?
Je pense que c'est Dragon Ball Z.
Si exactement, Dragon Ball Z. Les deux rappeurs, hein, Rof, âgé de 38 ans aujourd'hui, Orelsan, 34 ans, il commence à être un peu vieux.
Putain.
Et ouais, des papis. Ils ont grandi dans les années 80, voilà. Et dès 88, on a au Club Dorothée cette magnifique Ariane Carletti qui chante le générique du célèbre Dragon Ball Z. Celui-là, le générique chanté par Ariane Carletti dans les années 88, hein, Club Dorothée. Hein, dire que l'animé qui a ce générique mielleux, naïf, niais, le plus niais de tous les temps, moi j'ai même envie de dire, a inspiré les rappeurs les plus thugs, hein, les punchlines les plus offensives. Voilà, grand paradoxe que nous soulevons aujourd'hui à Montaigne-Oise Thug. Et c'est ce qui va nous permettre de lancer le sujet du jour. Vous l'avez deviné, cher chroniqueur, quel est-il ?
Dragon Ball Z et le rap.
Oh, beau gosse! Alors là, on va lancer l'opening quand même pour se mettre dans l'ambiance parce que là, je vous dis que dans les studios, on kiffe grave.
Dragon Ball Z.
voilà un vrai opening de manga qui déchire, voilà, de manga de baston, de manga où le courage, la force sont les valeurs premières, hein. Un manga qui donc a inspiré de nombreux rappeurs, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui à Mountain Was The Thug, hein. Alors on va être obligé aussi de parler de Dragon Ball, bien évidemment, de qui sont les personnages, pour voilà sensibiliser les auditeurs les moins alertes, les moins au courant du sujet. Alors, Dragon Ball, c'est donc un manga japonais, hein. Il y a des mangas français aujourd'hui, donc je précise, c'est bien un manga japonais.
Je crois que quand c'est des mangas français, ils ne s'appellent pas manga, mais autre chose.
Ah, d'accord.
Ça a un autre nom, je m'en rappelle plus ce que c'est, mais je crois qu'on n'a pas le droit d'appeler ça manga si c'est pas japonais.
Ah bon, alors un manga, excusez le pléonasme. Heureusement que Bertrand Fivien veille au respect des règles de la langue française. Et donc, ce manga qui a pour héros le vaillant Sangoku, hein. Alors, Sangoku, évidemment, le boss le plus fort, celui qui est toujours en train de dépasser, les ennemis qui le battent, il finit toujours par les dégommer. C'est le vaillant Sangoku qui a aussi un caractère un peu naïf, comme nous allons le voir. Et les rappeurs ont fait des références à Sangoku. Ils sont nombreux et on va pas pouvoir tous les citer dans cette émission, mais on va quand même faire référence à beaucoup de rappeurs, et le premier sur Sangoku, c'est Mac Tyer dans Tu casses, tu payes.
Neige, nuage magique de Sangoku pour m'envoler dans le ciel. Je suis comme tortue géniale parce que j'aime trop les fesses.
Et le deuxième son qui parle de Sangoku, donc là il parlait du nuage magique de Sangoku pour s'envoler dans le ciel. Le deuxième son, c'est Olkari sur une chanson Namek dont le titre fait directement référence à la série.
J'ai confiance en toi, courage. Tu es le seul qui puisse ramener la paix sur notre planète. L'humanité est avec toi.
Tiens, je suis perché et j'attends cette étoile filée. Je vais faire le vœu d'avoir un putain de pouvoir pas de stylé. Si je me pète avec un cyborg, je les tords le cou. Tous les jours je fais les points, je ressemblais à Sangoku. Une rafale de coups. Si vous avez peur, envoyez donc un hall dans le ciel avec un projecteur. J'apparais, je disparais comme dans ce...
Et voilà, voilà. Donc voilà, quelles sont les deux références à Sangoku, monsieur Bertrand Fibien, que vous avez pu percevoir?
Bon, c'est pas très compliqué, étant donné qu'il dit lui-même le mot Sangoku. Donc, lundi, je...
Le premier, Mac Tyer, tu casses, tu payes.
Nuage magique de Sangoku pour m'envoler dans le ciel.
Et après, petite référence quand même à Tortue Géniale,
oui, explicite. Je suis comme Tortue Géniale parce que j'aime trop les fesses, parce que, oui, Tortue Géniale est... Et un gros pervers.
Hein. Voilà, vieux libidineux, un des premiers maîtres, le premier d'ailleurs, ou si on accepte le grand-père de Sangoku, qui entraîne Sangoku et lui apprend la technique du Kamehameha, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Et la deuxième référence, monsieur Fibien.
Et la deuxième référence, c'est je fais des pompes comme Sangoku, je crois.
Exactement.
Et donc on a quand même ici deux références très, très diverses et qui font référence justement à deux périodes particulières du manga. Donc, vous voyez qu'on a d'abord Dragon Ball, juste sans le Z.
Exact, il faut expliquer la différence.
C'est quand Sangoku est enfant. Enfant, oui. Et puis après un peu...
Jusqu'au tome 16, pour être précis, pour ceux qui ont les mangas, jusqu'au 42, jusqu'au tome 16, on parle de Dragon Ball. Avant l'arrivée des Saiyans, hein, et qu'on ait la révélation sur ce que sont les Saiyans.
Mais c'est à la première mort de Sangoku que ça s'arrête.
Exact, Dragon exact. Non, il meurt pas.
Non,
en fait Dragon Ball Z commence avec la mort de Sangoku qui se fait tuer par Piccolo, mais ils se battent ensemble mais ils le tuent.
Ouais. Bon bref, et en tout cas ça fait référence donc à son côté plus enfantin, étant donné qu'on a s'envoler dans le ciel, donc on a plus une référence donc quand il est petit avec qui permettrait donc plus l'évolution de l'esprit par un imaginaire enfantin, alors que de l'autre côté donc on a Dragon Ball Z où là c'est vraiment ils sont trop forts, ils ont des muscles, ils se battent et c'est vraiment que la baston pure. Donc il essaie de se montrer musclé. Donc moi je suis comme Sangoku, je fais des pompes tous les jours, donc je suis trop fort. Donc on est ici dans une démarche beaucoup plus d'ego trip classique donc du rap, et d'ailleurs qu'on retrouve plus dans les évocations de Dragon Ball Z en ce qui concerne Vegeta que Sangoku. Je trouve Vegeta c'est beaucoup plus fort ce principe d'ego trip que pour Vegeta, que pour Sangoku, qui est plus...
Oui, c'est vrai, et nous allons le faire parce que nous allons parler après par la suite de Vegeta, le rival, le grand rival de Sangoku, hein, celui avec qui voilà, se noue le combat essentiel, hein, qui colore Dragon Ball Z du début à la fin, puisque en fait Vegeta ça va être le rival de Sangoku, pardon, à partir du tome 18 dans les livres. Et il va rester le rival jusqu'à la fin. Vegeta, c'est le prince Saiyan, celui qui est censé être le plus fort parce que il a le sang pur, le sang des Saiyans, il est descendant du roi des Saiyans. Ça y est, les Saiyans sont le peuple de Sangoku et de Vegeta. Et il devrait être le plus fort. Et c'est ce qui le rend extrêmement fier. Mais Sangoku est celui qui, lui, n'a pas de particularité spéciale, n'est pas le fils de quelqu'un, mais qui, à force d'entraînement, arrive toujours à surpasser Vegeta, dont la noblesse devrait le rendre, en fait, plus fort. Et on peut noter qu'en McTayer et quand même Hulk Henry, les deux rappeurs qui ont fait référence à Sangoku, c'est pas du tout des rappeurs geeks, hein. C'est des rappeurs bien gangsta, bien ghetto. Et donc voilà, c'est intéressant cette fusion un peu de Dragon Ball. Peut-être aujourd'hui, il y en a qui considèrent que c'est un truc de geek et pas du tout dans le rap. Ça a été récupéré par la culture ghetto parce que, comme le dit Youssoupha, il a une punchline dans une de ses chansons que j'ai pas appris là, mais il dit on se faisait soulever par les keufs en regardant Dragon Ball Z. Voilà, c'est cet imaginaire de par exemple l'huissier vient me perquisitionner ou les keufs viennent alors que moi viennent faire chier mon père alors que moi je suis tranquille, assis dans le canapé en train de regarder des BZ. Voilà, et ça permet de créer ce contraste en fait entre un univers enfantin et la vie du quartier qui peut être difficile. Et tout comme les deux références à McTayer et Hulk Henry créent un contraste entre cette enfance un peu joyeuse de Sangoku et plus tard, voilà, ce Sangoku musclé, une machine à combattre. Alors voilà, maintenant on va penser donc à Vegeta, puisque on a dit que c'était un des personnages également très cité par les rappeurs. Et on va faire entendre d'abord Sango, un rappeur, dans sa chanson qui s'appelle Première boule de freestyle, qui fait une référence à Vegeta.
C'est un bon toku pour percer Sangoku. De toute façon, je m'en bats les couilles, cousse, mon père c'est Sangoku. Au fait, mon père est taré, il me laisse un Beretta pour c'est l'héritage. Mais moi, je m'en fous, j'ai vu tes Vegeta. T'écris tes textes au Beretta, moi alors Vegeta.
Et voilà, donc c'était Sango dans la première boule de freestyle. Alors Vegeta, c'est un personnage très intéressant pour les rappeurs, parce que c'est peut-être, on va commencer par ça, l'incarnation de la fierté. Hein, et la fierté, c'est très important chez les rappeurs, être fier d'où on vient. Voilà, Vegeta, il ne cesse de rappeler qu'il est un Saiyan qui vient de la planète Vegeta et tout, parce que la planète porte aussi son nom.
Et qu'il est le prince, surtout.
Et qu'il est le prince des Saiyans. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il y a une chanson des rappeurs tiers-monde et braves qui s'appelle Fierté, et qui parle beaucoup de Vegeta, et ils ont même invité Éric Legrand, la voix française de Vegeta, qui fait les animes sur le son. Donc là, pareil, j'ai pas d'extrait, mais vous pouvez aller écouter ce son Fierté de tiers-monde et braves. Donc, Vegeta, il me semble, monsieur Bertrand Fibien, il est aussi extrêmement intéressant, parce que c'est celui qui perd toujours.
Oui, enfin, c'est celui qui veut atteindre un objectif finalement atteignable parce qu'il veut être plus fort que le plus fort finalement. Et donc qui est Sangoku, enfin il essaie toujours de surpasser Sangoku sauf qu'il n'y arrive jamais. Et donc c'est peut-être en cela aussi finalement qu'il est une figure intéressante et beaucoup utilisée par les rappeurs parce que eux aussi sont en quelque sorte toujours dans le conflit et dans toujours essayer d'atteindre une victoire enfin qu'ils n'atteignent finalement jamais, étant donné qu'ils sont toujours dans le clash, dans le conflit entre eux, donc si on a par exemple Booba contre Rof, ils sont toujours en train de chercher l'un à l'autre à se battre sans qu'il n'y ait jamais finalement de vainqueur, et donc c'est juste une lutte sans cesse qui n'aboutit finalement à rien, une rhétorique qui tourne à vide comme ça, qui est juste...
Voilà, mais oui, ça. Et aussi dans le rap, on est toujours en train de se demander qui est le numéro 1. Mmh. C'est l'éternelle question, André Gévin, qui a vendu plus, qui est le numéro 1. Et c'est pas la même question, pareil, à laquelle on ne répond jamais. Donc voilà, Vegeta, en ce qu'il incarne des valeurs de fierté, de combat, de voilà, jamais laisser tomber les bras, et surtout de hargne à extrêmement... inspirer les rappeurs et notamment, voilà, on va changer un peu de registre, Doc Gynéco.
Comme Vegeta, le super guerrier de l'espace, j'ai mauvaise réputation et un cœur de glace. Écoute, ces feelings, prends tous ces ding-ding, ça te rend dingue-dingue, mais le sort bang-bang de voilà, est-ce pour
Et oui, voilà, ça c'était Doc Gynéco dans Est-ce que ça le fait ? Donc on le voit, hein, Vegeta, super guerrier de l'espace. J'ai mauvaise réputation et un cœur de glace. Ce cœur de glace, cette fierté de Vegeta, qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le rap. Par exemple, dans la chanson que j'ai passée au début, Rof, Salam Alikoum, il disait bras croisés, rageux comme Vegeta. Donc encore une fois, la rage de Vegeta. Fa Baby dans Avec ma haine, il dit si je te dois, je paierai pas haineux comme Vegeta. Encore une fois, on a Falco dans Comme un R2 qui dit ceci.
2004, bref, on s'en fout. Y'a comme un air de Vegeta, de haineux comme un air de Vegeta. Y'a comme un air de. Comme un air de.
Et voilà, donc encore un air de haineux de Vegeta.
Là, il y a un petit jeu de mots en plus entre un air, donc l'air, et le nerf.
Ah, j'avais pas vu.
Surtout entre végétal et végétal, parce qu'il ne répète pas deux fois Vegeta, mais c'est végétal, comme un végétal des végétaux.
Oui, mais ce jeu de mots est un peu nul. Alors que celui sur le nerf, j'ai bien aimé. Haineux comme un air de Vegeta.
C'est qui ça déjà ?
C'est Falco.
D'accord.
Voilà, F-A-L. F-A-L-C-K-O. Donc voilà. Hein. Et un autre point commun qu'on peut noter, peut-être, vous me direz ce que vous en pensez, cher chroniqueur, dans cette comparaison entre Vegeta et les rappeurs, c'est peut-être la question du sexisme. Et on va s'écouter à ce propos un passage de l'animé Dragon Ball Z où Vegeta fait preuve d'un certain sexisme.
Hé, hey, femme, tu m'entends? Femme, viens ici! Allez, dépêche-toi! Viens ici, femme, dépêche-toi!
Grossier personnage, c'est à moi que tu parles? Mais où est-ce que tu te crois? Je te signale que je m'appelle Bulma!
Qu'est-ce que tu as fait de mes vêtements?
Tes vêtements sont dans la machine à laver!
Hein? Mais pourquoi?
Parce qu'ils ont besoin d'être lavés.
Je te signale que je suis un grand chef guerrier. Il n'est pas question que je porte des vêtements aussi ridicules.
Eh bien, si tu n'en veux pas, tu n'as qu'à rester tout nu.
Hein? Quoi? Tu veux que je me promène tout nu?
Et voilà, et tout le monde se marre, hein. Vegeta, le grand chef Saiyan, le gros macho, hein, qui sait pas comment s'adresser aux femmes, hein. On sait pas trop comment ça se passe sur la planète Vegeta, comment ça se passait, parce que la planète a disparu entre les hommes et les femmes. Mais voilà, on voit qu'il a un rapport un peu particulier aux femmes et qui se fait bien remettre à sa place par Bulma, la terrienne, qui deviendra par la suite sa meuf, en fait, hein, son épouse, je sais pas s'il se marie, mais en tout cas.
La mère de ses enfants.
La mère de ses enfants, tout à fait. Et voilà, cette confrontation de Vegeta avec une personne encore plus fière que lui, finalement, c'est ça qui le fait chavirer peut-être aussi du côté humain. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Fibien?
Oui, peut-être. On ne connaissait pas tant que ça les...
Si, mais parle plus.
Peut-être que oui, on ne connaissait pas tant que ça, de toute façon, le mode de fonctionnement... des Saiyans, donc on peut peut-être pas trop
ça. Ouais, ça avait l'air quand même d'une monarchie assez patriarcale. Et...
oui, après.
bah oui.
Pour en déduire que voilà.
Mais la mère de Sangoku a, je crois, récemment été découverte. Enfin, Akira Toriyama a réécrit une toute petite histoire où la mère de Sangoku figurait. Et ça a l'air d'être quelque chose d'assez traditionnel, sans pour autant que la femme soit réduite à.
Mais c'est peut-être aussi parce que c'est la mère de Sangoku et que c'est un personnage important. Parce que les Saiyans, quand on les voit un peu, c'est une espèce d'hommes préhistoriques qui font que se battre. Hein.
Oui.
C'est, voilà.
Enfin, oui, sauf que la mère de Sangoku, c'était une Saiyan comme les autres. Donc,
Oui, mais c'était quand même la mère de Sangoku. Oui, alors, ça raconte une histoire sur elle, peut-être qu'il a voulu, voilà, lui donner une certaine personnalité. Mm-hmm. Bon. Là, en tout cas, voilà, ce sexisme, hein, qui peut apparenter Vegeta au rappeur. Mais alors, si les rappeurs ont la même évolution que Vegeta, ils vont finir par épouser une femme qui saura les dompter. Une petite Bulma. Et donc, voilà, première pause de l'émission. On va s'écouter, un son, évidemment, qui parle de Dragon Ball, un rap de Dragon Ball, fait par un rappeur qui s'appelle Gunner. Voilà. Sa musique s'appelle Super Saiyan. Vous pouvez aller l'écouter sur YouTube, hein, Big Up à Gunner, parce qu'il a fait un son qui est bien marrant, qui nous a fait bien rire, et où il fait référence à pratiquement tous les personnages là, et il a fait vraiment un gros combo de Dragon Ball. On s'écoute donc Gunner.
fais pas du vainé, mais le reflet d'un kamehameha. Face à mon micro, je retrouve mon meilleur état. Ma fierté et ma rage aussi grande que celle de Vegeta. J'ai un petit cœur de temps en temps, je me mets au vert. Écoute ce tempo, je libère ma canne dans sa peau. Comme Trunk et Sangoten, je canalise mes pulsions. Rémi et Gunner ont tendu les doigts pour la fusion. Ouais mec, ce rap traverse d'autres planètes, plus loin que l'espace, espoir sur celle de Namek. Comme un chien enragé, ma puissance est à mode open. À la Sangoku, j'envoie mon Kaioken. Le stylo aiguisé depuis l'époque de mes 15 ans. Le crâne bien rasé comme Krillin. Voilà mon Kenza. Zayan ou pas, qui pourra me tester? Dans le rap, trop de cyborg fait que je suis détesté. Entre les gencives de la rage, mélange le ritaille. Attention, j'arrive sur un trône comme Tao Pai Pai. Bye bye, bing bang, attaque aérienne. Car sous ma casquette, j'ai les cheveux d'un super saiyan. J'ai le cœur en pierre pour ceux qui crachent sur moi comme blabla. Vous inquiétez pas, je garde pour vous le Genki Dama. J'ai pris le radar, Bulma, les haricots, Yana. Je gère la situation comme le Soki dans de Yamcha. Mais pour les tournois, Shenron m'envoie faire le sell game. Comme au volleyball technique de Gotenks, Aikyuken. La mentalité de Shin, ma force se déchaîne. Comme un petit Trunk, on a tout de ça dans les gènes. Du soleil chez Babidi, on descend l'étage. Chaque gardien prendra un canon garic et un fan flash. Chasse la boule, le sacrifice. Vegeta devant son fils, a peur de dire je t'aime. Va sur mon front, j'ai le M. La rivalité face à des rivaux dangereux. Avec l'épée de Tapion, un seul bombe, tout se brise en deux. En haut de la tour, Karine, là les guerriers s'entraînent. Face au tout puissant qui voit le mal arriver, s'entraîne. Direction la salle de l'esprit et du temps paré pour l'entraînement. Ici un jour m'offrira un âme. Des éclairs se forment avec le regard de San Gohan. Car sous la couleur, j'ai dépassé Super Saiyan. Guerrier de l'espace. Aucune faiblesse, commando Gino Freezer. Voyez ma vitesse, toujours obstiné mes ennemis. Je les bats d'un coup, les radis de Senna parfois pas le poids. Voilà Sangoku, 5000 guerriers créés dans un puissant métal. Chaque Kikuma viendra d'un poignet aussi brutal. De couleur abolie, attaque brûlante. Depuis Kamea où sauront lieu les vagues déferlantes. Chevelure longue et dorée, puissance méga. Ça finit toujours avec un des Kamehameha.
Et oui, voilà, vous venez d'écouter Gunner, sa chanson Super Saiyan, sur Mountain Was the Thug, rap, littérature et révolution sur Radio Canu, avec une émission aujourd'hui consacrée à Dragon Ball Z et au rap, hein, les rapports entre Dragon Ball Z et au rap, comment le rap se nourrit de Dragon Ball Z, et comment le rap a pu aussi révéler certaines choses dans Dragon Ball Z. Ce sera notre partie un peu pertinente et mystérieuse et philosophique et puissante, hein, comme on sait toujours faire à Mountain Was the Thug. Et voilà, et donc tout commence dans la chanson de Gunner par le Kamehameha, et ça finit aussi par le Kamehameha, hein, cette attaque un peu emblématique. Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs connaissent le Kamehameha sans savoir que finalement c'est Dragon Ball ou qu'est-ce que c'est vraiment le Kamehameha. Et bien aujourd'hui vous allez savoir, hein, le Kamehameha c'est 5 onomatopées dont 2 seulement sont différentes, hein, le K et le M. Voilà, donc c'est déjà c'est un moyen mémotechnique assez simple, on peut facilement se souvenir du truc. En plus il y a une diction appropriée, un flow, voilà, qui fait que Kamehameha, c'est un truc qu'on retient souvent. Et voilà, tout le monde s'accorde pour reconnaître la force de cette attaque, qui consiste à projeter de l'énergie, voilà, de l'énergie physique sous forme de feu, Monsieur Tabu.
Ça a une signification en français, le terme Kamehameha?
Mais alors,
oui, enfin en japonais en fait.
Oui, en japonais. En
français. Oui, il y en a.
Mais parce que Kame, je crois, veut dire tortue.
Voilà, c'est ça.
Parce que c'est... Tortue géniale qui a fait
donc
le
tortue,
premier...
Tortue. Voilà, Kame Sennin, c'est le maître des tortues, c'est Tortue géniale. Mm-hmm. Et donc voilà, c'est pour ça, tout ça. Et donc c'est l'attaque de la tortue en fait à la base, mais après bon...
Mais bon, ça n'a rien à voir avec une tortue.
Oui, voilà, c'était juste voilà, du feu qu'on te balance à la gueule. Enfin, je dis du feu, c'est en fait de l'énergie. Son ki qu'on l'en jette, mais bon, on va pas rentrer dans les détails trop techniques, hein. Voilà, ça nous prendrait vraiment des heures pour expliquer comment on fait un Kamehameha. Et donc voilà, cette force du Kamehameha, tous les rappeurs s'accordent à la reconnaître, et même ceux qui se sont clashés, ceux qui ont connu les plus grandes discordes et les plus grands désaccords. J'ai nommé, hein, à la suite, vous allez entendre Cynic, Booba et Rof rassemblés autour du Kamehameha, c'est magnifique.
C'est pour mes gars sous l'œil de la caméra, j'ai retiré ma camisole et envoyé mon Kamehameha.
J'suis plus dangereux qu'un Kamehameha, 9 de illunatique, tu peux rien faire de mieux.
Je reviens du bled chargé de gris, gris et toa. Éblouis les caméras, envoie des caméas.
Et voilà, vous avez entendu hein, quand même, trois sons, Cynic, Booba et Rof, les trois font une référence au Kamehameha. Alors, pourquoi le Kamehameha, monsieur Bertrand Fibien?
Déjà, le Kamehameha, c'est une attaque, c'est puissant, donc en parler, c'est déjà bien, je pense, dans l'optique du rap, pour montrer sa puissance, toujours. Mais en plus, on a dans le Kamehameha une certaine sonorité qui permet dans le rap, du coup, quand, si on... On parle du rap dans sa fonction de jeu avec les sons. L'entrée en scène de sons japonisants et puis avec ses répétitions permet aussi quelque chose d'intéressant musicalement, peut-être.
Et oui, tout à fait. Hein. Rof a quand même pu faire un petit jeu de mots entre caméra et kamehameha. Voilà, hein. Quel autre mot en langue française pourrait. Pas un jeu de mots, mais voilà.
Oui, et puis le kamehame, c'est.
Et exactement, et Booba, je suis plus dangereux qu'un camé armé, qu'un camé amé. Hein, voilà, toutes ces innovations linguistiques que permet le Kamehameha, c'est proprement fabuleux. Hein, n'est-ce pas, monsieur Tabu?
Oui, je suis d'accord avec ça.
Et c'est pour ça que, d'ailleurs, d'autres personnages avec un peu des sonorités bizarres ont permis des punchlines, des innovations, comme le Maître Caillot. Qui est Maître Caillot? Alors, Monsieur Fibien.
Alors, Maître Caillot, donc, il s'inscrit dans une sorte de hiérarchie de l'univers de Dragon Ball Z. Donc, il y aurait donc, possiblement un dieu par planète. Donc, en tout cas, sur Terre, il y a un dieu qui est en fait un Namek. Et puis, il y aurait donc dans chaque partie de
la galaxie,
un Maître Caillot qui serait donc le chef de cette partie-là, de la galaxie, avec après. Au-dessus d'eux, des maîtres Kaioshin qui seraient encore au-dessus des Kaios.
Et voilà, et ce qui est fou dans Dragon Ball, et c'est pour ça aussi peut-être que c'est un manga qui reste, c'est la puissance des personnages. Sangoku, c'est quelqu'un qui, dès les premiers tomes, rivalise avec Dieu, quoi, le Dieu de la Terre. Si, tout à fait.
Oui, c'est à la fin de. Enfin, c'est dans les tomes 15-16.
Hein, oui, il y a 42 tomes, donc c'est quand même relativement tôt.
Oui, c'est pas dès les premiers.
Bon. Et voilà, il rivalise très tôt avec Dieu. Après, une fois qu'il a été entraîné par Dieu, il va se faire entraîner par le Maître Caillot. Et maintenant, dans les épisodes, parce que Dragon Ball Z a revécu en 2015, c'est là la grande actualité aussi de cette émission, il y a une suite de Dragon Ball qui est sortie en 2015, qui s'appelle Dragon Ball Z Super. Ils se font directement entraîner par les dieux de la destruction, qui en gros sont voilà, des monstres, ils sont vraiment d'une puissance phénoménale. Mais c'est ça, à chaque fois Dragon Ball, une puissance phénoménale remplace une autre puissance phénoménale. Mais pourtant, le Maître Caillot, qui est censé quand même être vraiment très fort, c'est quelqu'un qui est vite surpassé, et qui est très drôle, qui voilà, a une sorte d'autodérision. Pour devenir son élève, il faut arriver à le faire rire, il faut arriver à lui faire un jeu de mots qui va faire que voilà, on va être accepté par lui. Et il est aussi assez risible parce qu'il est toujours tout seul sur sa petite planète avec son singe qui s'appelle Bubble. Et ça aussi, ça fait parler les rappeurs, et notamment Bazou dans sa chanson Miraculé.
Dorénavant je frappe jusqu'à les mettre KO. Je suis sur ma planète et je tourne en rond, Maître Caillot.
Voilà, il est tout seul sur sa planète, il tourne en rond, le bon vieux Maître Caillot. Donc voilà, il y a cette ambiguïté entre des maîtres très très forts et aussi très vite dépassés, et un peu leur côté ridicule, drôle, voilà, une certaine contradiction. Maintenant, on va peut-être passer aussi à ce qui a pu inspirer les rappeurs. Je veux parler des particularités physiques. À qui vous pensez quand je dis particularités physiques dans Dragon Ball, Monsieur Tabu, par exemple?
Je sais pas. Je pense au queue des singes qu'ont Sangoku, Vegeta.
Oui, voilà, par exemple.
Ensuite, je sais que Monsieur Krillin a 6 points sur son front.
Qui n'a pas de nez.
Qui n'a pas de nez non plus. Ouais, c'est
mais
ça.
Oui.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a,
il y a encore plus choquant, peut-être.
On a Trunks qui a les cheveux blancs, alors qu'ils ont tous les cheveux noirs, à peu près, ou alors ils sont chauds.
Ouais, ils sont bleus, plutôt.
Cheveux, ces ouais, violet-gris.
Ouais,
violet-bleu-gris.
Violet, ouais. Et ensuite.
Mais il y a aussi Tenshinhan, qui a une particularité qui se voit, comme le nez au milieu de la figure, c'est sauf que c'est pas son œil. C'est son troisième œil au niveau du
visage. Il a un troisième œil, le bon vieux Tenchinhan. Hein. Voilà, encore une sonorité bizarre qui peut faire Tenchinhan. Voilà, sonorité japonisante que j'ai très bien imité. Et voilà, et aussi Tenchinhan aussi, il a pu donner lieu à des punchlines. Notamment de la part de El Matador, le rappeur marseillais, dans sa chanson polythniquement incorrecte, ainsi que Caballero dans son freestyle de la cigarette fumante.
Gueule du suspect depuis que l'équipe de France a bu Zidane. On est tous surveillés par un troisième œil de Tenchinhan. Faut que la presse bourbon musicale, c'est pas du rap de festival.
Mais méfie-toi de cette merde, car sa victoire est certaine, comme une vaste onde regard entre un cyclope et Tenchinhan.
Alors, monsieur Fibet, est-ce que vous pouvez expliquer la phase sur la baston de regard entre Cyclope et Tenchinhan?
Bon, expliquez-vous. Enfin, oui, enfin, bon, donc, du coup, il y a trois œils d'un côté et un œil de l'autre, donc ça laisse sous-entendre que Tenchinhan gagnerait la baston de regard.
Mais oui, il ne peut pas lutter. Le Cyclope ne peut pas lutter contre lui.
Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'au-delà de convoquer Dragon Ball Z Rank pour faire de l'ego trip, pour dire regardez, on est trop fort. On montre aussi que ça convoque un imaginaire particulier qui carrément donc rivalise avec les univers merveilleux et fantastiques qui datent des temps immémoriaux.
Les grandes épopées.
Le Cyclope, voilà.
Comme l'Odyssée, le Cyclope de l'Odyssée.
Voilà, le Cyclope de l'Odyssée ici qui perd d'ailleurs presque même contre les trois yeux de Tenchinhan. Et donc oui, voilà, il y a deux grandes épopées de notre
civilisation, de notre
civilisation, ici, voilà, qui sont réunis et qui se battent au sein même du rap, donc qui serait peut-être une épopée musicale.
Et oui, El Matador, quant à lui, ça lui permet de la référence à Tenchinhan lui permet de convoquer, voilà, parce que El Matador c'est un rappeur qui aime bien faire des références conspirationnistes, les Illuminati, etc. Donc le troisième œil de Tenchinhan comparé à cet œil en haut de la pyramide que l'œil Illuminati, hein, voilà, ça c'est là pour El Matador qui fait une référence plus sérieuse, qui récupère Tenchinhan pour finalement voilà un sujet beaucoup plus sérieux. Et moi je trouve que ça passe assez mal personnellement, désolé.
Oui, après, c'est juste que ça offre une certaine, enfin d'autres, une réactivation de certaines métaphores finalement. Mais oui, après oui.
Mais la plus grande, finalement peut-être que la plus grande, je sais pas, particularité de Tenchinhan, c'est celle d'être chauve, parce que contrairement à tous ces Saiyans, tous ces guerriers chevelus que l'on voit se battre, Tenchinhan lui n'a pas de cheveux, et Monsieur Tabu va nous parler des cheveux des Saiyans lors de sa chronique.
La chronique tarde, la chronique tarde.
Oui, alors, chers auditeurs, s'il y a bien une chose qui nous fascine dans Dragon Ball Z, c'est la coiffure des Super Saiyans. Et si elle provoque chez nous une grande admiration, c'est parce qu'elle est le signe de leur puissance. Après avoir frôlé la mort ou après avoir vu ses amis mourir, Sangoku, Sangohan ou Vegeta se transforment dans une sorte de colère où leurs cheveux noirs s'érigent en tignasses blondes et se mettent à crier avec une voix de petit enfant. Les muscles et les cheveux prennent du volume, ce qui nous suggère un accroissement de leur pouvoir. Le problème est que, dans la réalité, ce type de transformation n'existe pas. J'ai personnellement essayé de m'énerver, ou même de me teindre les cheveux en blond, mais rien à faire. On ne pourra jamais devenir des super saiyans ou des super guerriers. Même les djihadistes qui sont censés être surentraînés ne parviennent qu'à faire pousser leur barbe, ce qui en fait finalement des hipsters en colère. Mais en y réfléchissant bien, il y a peut-être une personne qui ressemble quand même à un super saiyan. D'après vous, qui peut-il être?
Je pense à un politicien américain, je ne sais pas si vous voyez.
Exactement.
La coiffure, ouais.
Très en vogue, mais c'est pas vraiment un super saiyan, puisque lui c'est plutôt aplati.
Oui, mais quand même, est-ce que ça cache pas quelque chose,
comme
ça
un peu plus gros.
C'est bien sûr Donald Trump, donc le candidat à la primaire aux États-Unis pour la présidence future. Et donc avec un volume suspect mais pourtant là, semblable à un paillasson déposé sur son crâne ou à un cochon d'Inde qui n'arrive pas à dessouler, sa coiffure nous indique que du sang de super guerrier coule peut-être dans les veines du candidat républicain à la présidence des États-Unis.
Ce qui ferait mal au cul.
Ce qui ferait très mal au cul, oui.
En outre, le teint blanc, un peu grisonnant de sa mèche domptée par un kilo de laque vient nous conforter dans cette hypothèse. On retrouve également une certaine fascination pour la coiffure qu'arbore le futur président de la première puissance mondiale, puisqu'une nouvelle tendance dénommée Trump Your Cat a fait son apparition sur Instagram. Elle consiste à photographier... Pardon, vous ne connaissez pas Instagram, c'est ça ?
Non, ni Instagram, ni Trump Your Cat.
Alors, pour la Minute Pop, Instagram, c'est une application sur vos smartphones qui consiste à poster des photos et à les partager sur toute la communauté sociale, donc, un peu comme Facebook, mais avec des photos. Et donc ici, l'application Trump Your Cat consiste à photographier l'animal le plus populaire du web, c'est-à-dire le chat, en le peignant à la manière de Trump, c'est-à-dire avec un morceau de coton, de laine ou autre chose, dressé sur sa tête et à poster la photo sur le compte Instagram. Volume, couleur blonde et fascination, la comparaison nous semble tout à fait pertinente.
Tout à fait, oui, j'allais le noter. Grande pertinence encore une fois.
Mais avant d'aller plus loin dans la confirmation de cette vérité inédite qui s'apprête à être dévoilée, il faut peut-être se poser une question pas forcément évidente mais néanmoins déterminante pour la suite de l'analyse. S'agit-il de ses vrais cheveux ? Même si ça ne saute pas aux yeux, la question a pourtant été posée dans les médias aussi bien français qu'américains. Et pour le coiffeur français Franck Ménétrier, la coiffure de Donald Trump est, comme il l'a décrit de façon poétique, à cheval entre une queue de loutre et un épi de maïs en fleurs. Pourtant, dans une interview... Pardon ?
C'est bien vu, c'est bien vu.
C'est pas mal, c'est poétique. Pourtant, dans une interview accordée à Channel 4, il affirme, je cite, « Mes cheveux ne sont peut-être pas très beaux, mais ce sont les miens ». D'autres sources confirment qu'il aurait fait des implants capillaires dans les années 1980. Il aurait notamment soulevé, grâce à l'aide de plusieurs personnes, sa mèche sur un plateau télé, justifiant ainsi cette phrase.
Non.
Ah, je vous le jure. On doit donc en déduire d'une part qu'il ne s'agit pas d'une moumoute ni d'un animal mort ou endormi, mais de ses vrais cheveux, et d'autre part que si sa coiffure est naturel, il est possible que Donald Trump soit le descendant direct des Super Saiyans.
Non, ça, je suis désolé. Voilà. Mon idéologie, mes valeurs m'empêchent de croire sur ça.
Et pourtant, il faut le croire et je vais vous le montrer par la suite. Alors, tout d'abord, une nouvelle question. Mais de qui peut-il bien être le descendant ? Puisqu'on parle depuis tout à l'heure de filiation entre ces Super Saiyans ou ces hommes de Dragon Ball Z. Et en regardant de plus près son nom de famille, on se rend compte qu'il se rapproche de manière flagrante du Super Saiyan Trunks, fils de Vegeta et de Bulma.
Oula, alors vous y allez fort, hein. Je pense que vous allez avoir des problèmes au sein de la communauté.
Donald Trump est-il en fait Donald Trunks? C'est aussi ce que nous laisse penser la couleur de ses cheveux qui, entre le blond paille et le gris, se rapproche évidemment de la couleur des cheveux grisonnant, tirant sur le violet de Trunks et de la mère de Trunks, Bulma. Mais de nouvelles questions se posent alors, pardon ?
Elle a les cheveux verts, je crois.
Non, bleu.
Bleu.
Ça dépend des dessins.
Bleu, vert, voilà.
Sachant que c'est un manga en noir et blanc, la couleur est superflue, les interprétations.
Et dans l'animé, oui, effectivement.
Non, parce que les couvertures des mangas sont en couleur.
Oui, mais,
oui, mais Trunks a bien la couleur des cheveux qui est plutôt grise que bleu quand même.
Oui, non, mais lui, il a pas exactement la même couleur que sa mère en fait.
On voit que de tout temps, la couleur des personnages de Dragon Ball ont divisé. La couleur des cheveux des personnages de Dragon Ball ont divisé. Voilà, c'est ce que voulait nous faire remarquer Albert Tabu
voilà,
en créant cette polémique.
Et donc, après cette première démonstration, deux nouvelles questions se posent alors. Premièrement, pourquoi n'est-il pas entièrement blond comme le sont les vrais Super Saiyans ? Et à cette première question, on peut facilement répondre en disant qu'il peut s'agir d'une transformation ratée. Quant au deuxième problème, il serait le suivant. Trunks est un personnage plutôt calme et intelligent, alors que Donald apparaît plutôt agité et peu instruit. En témoigne cette belle citation qui clarifie la position politique du futur candidat à la Maison Blanche sur la torture. Croyez-moi, ça marche. Et vous savez quoi ? Si ça ne marche pas, il le mérite quand même.
Oh putain.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Donald Trump n'est pas le fils du Trunks du futur, mais le fils du Trunks du présent.
Oula.
Ah oui, si le Trunks du futur est plutôt calme, le Trunks du présent est plutôt du genre excité et très orgueilleux. Cette différence s'explique par le fait que le Trunks du futur est un adolescent mûr qui vient d'un futur apocalyptique où il est le seul à pouvoir sauver les humains face aux robots. Il incarne un peu la figure du messie en fait.
Les cyborgs, pardon, les robots. Alors que c'est pour les auditeurs qui ne sont pas férus de Dragon Ball. Alors que le petit Trunks, lui, du présent, a été élevé dans un monde plus calme et sous l'influence de son père Vegeta, l'homme le plus orgueilleux qui soit, on l'a dit. Et à partir de là, on peut dire que c'est bien cet orgueil démesuré et cette hyper-excitation qui n'a jamais cessé qu'on retrouve chez Donald. D'ailleurs, sur sa page Wikipédia, il est dit qu'à l'âge de 13 ans, ses parents l'ont envoyé à l'Académie militaire de New York dans l'espoir de, je cite, « canaliser son énergie ».
Empêcher sa transformation Super Saiyan.
Voilà, c'est exactement ça. Il y a donc une ressemblance frappante entre Donald Trump, désormais Donald Trunks, et son père Trunks. Non seulement dans l'aspect physique de celui-ci, mais aussi à travers sa personnalité. Enfin, ce qui vient confirmer cette vérité pleine de conséquences est le statut social de Donald Trump. Homme d'affaires milliardaire, sa fortune est estimée à 4,5 milliards de dollars en octobre 2015, tout comme son arrière-grand-père présumé, le docteur Brief, si je ne me trompe pas. Le père de Bulma est donc le grand-père maternel de Trunks, qui est dans la série Dragon Ball le scientifique intelligent et excité le plus riche de la capitale de l'Ouest, fondateur de la Capsule Corporation qui sera reprise par le petit Trunks du présent lorsqu'il sera plus âgé. Ainsi, un orgueil végétarien et une richesse léguée par son grand-père maternel, nous sommes désormais au fait de la véritable identité de Donald Trump. Donald Trunks est le dernier descendant de la race des super guerriers.
Oh là là, non mais... Putain, ça va pas du tout, moi, je trouve. C'est
chronique dans un cas très similaire à celui de Star Wars où le descendant finit par devenir méchant.
Et très moche. Après cette révélation, deux nouvelles et dernières questions existentielles subsistent. Premièrement, qui est la mère de Donald Trump? Ou pour le dire autrement, avec qui Trunks a-t-il pu coucher? Et enfin, deuxièmement, faut-il croire Donald Trunks et le considérer comme le messie des temps modernes, tout comme Trunks est venu délivrer la vérité sur le futur à Sangoku et ses amis? Est-ce bien la vérité qui s'énonce derrière ses positions politiques sur l'avortement, l'immigration, les armes, etc.?
Nous en doutons. Nous en doutons, d'autant plus que je vois qu'il y a un problème dans votre chronique, monsieur Tabu, et je pense que monsieur Fibien l'a aussi très bien vu.
Oui, parce que si le Trunk, s'il y a un Trunk Messi, c'est le Trunk du futur, alors que vous avez bien précisé que Donald Trump serait le descendant du Trunk du présent, et donc n'aurait rien d'un Messi, mais plutôt d'un enfant capricieux.
Merci Donald. Bertrand Fibien de nous délivrer de l'angoisse avec votre savoir inégalé jusqu'à présent.
Et oui, nous avons trouvé la faille dans votre chronique, qui était d'ailleurs très pertinente, monsieur Tabu, je dois noter. C'est vrai que finalement, la coupe de Trump, Trunks, tout ça, oui, nous pourrons voir un complot. Encore une fois, de la part des Illuminati du futur, hein, qui ont envoyé un Trunks, etc., etc., etc. Et on va écouter, pour l'instant, Demi-Portion, qui fait ce son magnifique sur Dragon Ball, qui s'appelle Dragon Rush.
À l'heure où tout le monde essaie de marcher sur les autres, ouais. On y est, on essaie de se prendre la tête. Surcaillé. Ouais. Ça fait de nous. Des super guerriers. Demi-portion. RACHID. Écoute ça.
D'accord, vas-y.
Oui, j'avoue que l'on n'a pas en repoussant les coups. À part la vie, on n'a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, j'ouvre-t-il mon tour. Ceux qui partent ne reviennent pas, comme Sangoku. Oui, j'avoue que l'on n'a pas en repoussant les coups. À part la vie, on n'a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, j'ouvre-t-il mon tour. Avec mes 7 boucles de freestyle, du sang tout court.
Tiens, v'là une nouvelle histoire, apprécie cette galette. J'ai encore plein de pouvoirs que ma planète, là mec. À ceux qui arrivent en paquet jusqu'au Québec. Autant de clips que de films dans une vidéothèque. Vu qu'on veut s'en sortir avec ou sans chèque. Aucune crainte d'Hnouche, on est dans le désert. Et s'il y a trop de grandes bouches, c'est qu'il y a trop de shakem. Vu que j'ai plusieurs glandes, la maradine bedel. Khalil micro kedem, radit roche bedem. Anna bouhadi, khalil scout, ou khalil n'kemmel. Rap, ou run go look fitsken. Un dialecte, rien de plus, le kobo d'un teken. Car on a plusieurs branches avec des feuilles spéciales. En toute saison, ça passe, repousse les bonnes pétales. Bref, c'est Dragon Rush Ball, t'as reconnu ta pion. Demi-débit, phénoménal, hein, stop fusion.
Oui, j'avoue que l'on n'a pas en repoussant les coups. À part la vie, on n'a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, j'ouvre, agile mon tour. Ceux qui partent ne reviennent pas, comme Sangoku. Oui, j'avoue que l'on n'a pas
mes 7 boucles de freestyle tu sens tout court.
Un lyric de si bordure, comment ça tape sa mère? En acapella ou en kick, ou sinon tape des mains. Comment l'envie se mélange? Est-ce que le biz m'appelle? Juste un album peinard, sujet l'ambiance ou ting. Non, je fais quoi ce matin? J'attends rien de personne, car ils sont plusieurs à buter seulement pour 100 pesos. La plupart sont occupés derrière leur vie de mensonge. Pour avoir des vrais amis, fallait que je goûte mes sauces. Oui, la France pète un plan et s'invite en battle. Soit tu les suis, soit tu les regardes en tant que spectateur. Il les joue qu'avec la peur, donc je fais quoi ma gueule? On se met bien quand on se parle du premier Alcatel. La rage des Césaire, entraînement des BZ. Du bon smeul qui passe à couze, on est resté zen. Vas-y zoom, c'est bip bip, demi et puis c'est tout. On donne ça tranquille avant que tout s'écroule.
Oui, j'avoue que l'on avance en repoussant les coups. À part la vie, on a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, je joue fragile mon tour. Ceux qui partent ne reviennent pas comme Sangoku. Oui, j'avoue que l'on avance en repoussant les coups. À part la vie, on a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, je joue fragile mon tour. Avec mes 7 boucles de freestyle, tu sens tout court.
Ça s'arrête pas, on veut se percher autre part. Si on a la côte, dis-moi, c'est qu'on se rapproche, je drogue pas. Dédié à la Côte d'Ivoire et les pays qui font le poids. On se met en place petit à petit, il faut le croire. Si les PDG montent grave, c'est qu'on se tue au boulot. Juste un milieu de requins où tout le monde travaille sous l'eau. Et si tu rames ces bonos, ça n'usera pas leur moteur. Donc on remonte les manches sans la paye de Steve Urkel. Bibi, bibi, tu voulais du sang, je vais te servir frérot. Demi-portion.
À part la vie, on a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, je joue fragile mon tour. Ceux qui partent ne reviennent pas, comme ça me coucou. Oui, j'avoue que l'on avance en poussant les coups. À part la vie, on a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, je joue fragile mon tour. Avec mes 7 boucles de freestyle, je sens tout court.
Oui, j'avoue que l'on avance. À part la vie, on a rien. Haricot de mille. Le combat continue. Le combat continue. Dragon Rush, Bosch.
Et oui, c'était Demi-Portion, le rappeur, sa chanson Dragon Rush, R-A-S-H. Alors, cette chanson nous propulse directement dans la partie plus sérieuse de l'émission, voilà, la partie hautement intellectuelle et philosophique. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, nous allons réfléchir non pas à ce que les rappeurs ont trouvé dans Dragon Ball, hein, les références à l'univers Dragon Ball, etc., ce que Dragon Ball a apporté au rap, mais plutôt ce que les rappeurs ont pu apporter à notre lecture, notre compréhension de Dragon Ball. Et Demi-Portion, voilà, participe grandement de cette renouveau de l'interprétation de Dragon Ball. Et oui, tout à fait, monsieur Fibien, et c'est grâce à vos lumières pertinentes que j'ai pu avoir accès à cette connaissance. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de cette chanson de Demi-Portion et de cette référence musicale tout d'abord?
Oui, alors peut-être que avant d'évoquer la référence musicale, on va peut-être évoquer Tapion. Enfin, qui est Tapion, parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Donc Tapion, c'est un des personnages principaux d'un OAV. Donc un OAV, c'est-à-dire un film qui a été sorti...
Qui n'est pas dans les livres.
Qui n'est pas dans les livres et qui n'a pas été écrit par Akira Toriyama, mais juste par la Toei.
Exact.
Et donc Tapion, c'est un personnage donc, qui arrive sur Terre et qui rencontre la Team Z, comme on l'appelle, c'est-à-dire Sangoku et tous ses amis. Et en fait, il était enfermé... Enfin, en fait, il arrive sur Terre et bon, il y a toute une histoire, etc. Et en fait, c'est un personnage très mélancolique par rapport à tous les autres personnages de trucs. Enfin, le seul qui est aussi sérieux, peut-être, c'est le Trunks du futur, justement, qui lui aussi a vu presque tous ses amis mourir. Et donc, Tapion, de la même façon, a vu sa planète détruite par un espèce de monstre géant qui a été réveillé par des sorciers. Et donc, ce monstre a été coupé en deux par une épée. Et donc... le haut et le bas de ce monstre. La moitié, donc la partie haute, a été enfermée dans Tapion et la partie basse dans son petit frère. Mais son petit frère a fini par mourir. Et donc la partie basse est libérée. Donc ici, elle se retrouve sur Terre. Et donc c'est toute cette histoire-là qui nous arrive. En fait, pour contrôler cette partie basse, donc du monstre, qui s'appelle Hildegarde d'ailleurs, Tapion a recours à un ocarina. Donc une sorte de foot, l'ocarina comme celui de Link. D'ailleurs, Link et Tapion se ressemblent beaucoup. Ils ont la même épée, un ocarina.
Des oreilles pointues.
Donc, enfin, voilà. Et donc, il joue une mélodie qui permet de contrôler Hildegarde, donc cette
la partie basse
du monstre.
Les jambes.
Et donc, en fait, c'est une mélodie que reprend Demi-Portion dans Dragon Rage. Donc peut-être que monsieur... Putain, je vais vous faire écouter cette mélodie.
Réécouter cette boucle a été reprise et aussi dans une autre. Dans une autre chanson de rap qui s'appelle Tapion par Limsa et Sheldon, ils ont repris cette même boucle hein, qui voilà qui inspire et qui est la suivante. Donc vous avez bien entendu, c'est cette boucle qu'a samplé Demi-Portion. Dans sa chanson Dragon Rush.
Oui, alors je viens juste de réaliser qu'il y a une grosse contradiction parce que le son qu'on entend, c'est pas du tout un son d'ocarina ou d'instrument avant, en fait. Enfin, c'est du clavier, on dirait. Donc c'est un peu contradictoire de leur part d'avoir retransmis ce son de cette façon, mais bon, c'est pas très important. Mais donc, oui, voilà. Donc, outre cette mélodie, donc qui entre quand même la. La chanson dans une sorte un peu d'univers mélancolique plus que si nous avions
oui la quoi. Chanson est un peu triste cette mélodie
oui voilà donc et puis donc la chanson donc si donc par aspect elle fait référence enfin elle convoque Dragon Ball Z un peu de la même façon que les autres rappeurs donc par exemple j'ai encore le plein pouvoir de ma planète Namek ou un lyrics de Cyborg dur comme sa taf sa mère ou en gros
voilà vous voulez fort, dire voilà. Que voilà on a encore cette référence à la force
voilà mais il y a quand même un autre aspect. Et donc l'univers de Dragon Ball Z est convoqué un peu différemment donc dans le refrain, notamment lorsqu'il dit « À part la vue, on n'a rien au sommet de nos tours, et ceux qui partent ne reviennent pas comme Son Goku ». Donc la tour ici fait référence à la tour Karine, donc la tour Karine c'est une grande tour que Son Goku doit escalader, et il arrive en haut ou dans une espèce de salle.
Au-dessus des nuages, vraiment une tour très haute.
Oui, très haute, où d'abord il y a la tour Karine, donc où son premier maître qui est un chat.
Maître Karine.
Maître Karine, voilà. Qui l'entraîne première fois et au-dessus encore de la tour Karine, il y a le temple de Dieu, la maison de Dieu quoi.
Et c'est un là palais qui vole dans le ciel.
Voilà, en fait. Un palais qui vole dans le ciel où enfin on ne peut l'atteindre qu'avec le bâton magique de Son Goku. Et donc c'est là que se trouve Dieu et là où il a accès à un autre entraînement et il dit donc lui à part la vue, on n'a rien au sommet de nos tours donc nous lui, par exemple, il n'a pas ce côté-là, en plus, ce côté de Dieu, etc., qui est là. Et pareil, ceux qui partent ne reviennent pas comme Son Goku. En gros, dans notre vie, parce que Son Goku meurt à deux reprises et ressuscite à chaque fois, alors que chez nous, dans notre monde, les gens meurent et puis c'est tout.
Oui, vous voulez dire qu'il y a une comparaison dans cette chanson de
Jésus. Donc, voilà.
Pardon. Oui, monsieur Tabi,
Jésus,
vous
Jésus, oui, voilà.
Oui, Jésus est le seul d'ailleurs, oui, tout à
donc,
fait.
Donc, oui, il y a une comparaison sur un mode assez mélancolique. Donc, l'univers de Dragon Ball Z serait une sorte de paradis perdu, un Éden inatteignable par rapport à notre monde qui est donc. Il montre la médiocrité de son monde et du nôtre en le comparant à Dragon Ball Z, donc qui est mieux, en un sens. Et donc voilà, on a bien dit par exemple que, dans notre monde, Dieu aurait déserté la Terre, donc Dieu serait mort selon ce qu'en dit Nietzsche par exemple. Alors que ce n'est pas le cas dans Dragon Ball Z, même si nous l'avons vu, le Dieu de Dragon Ball Z n'est pas un Dieu vraiment transcendant que l'on ne peut pas atteindre.
Oui.
Étant donné que c'est un Namek et c'est un Dieu que l'on peut atteindre, avec qui on peut discuter, que l'on peut donc égaler et même surpasser.
Oui, c'est très intéressant. Dieu, il existe non seulement, mais en plus, il est atteignable, il est connaissable. On peut être pote avec lui, on peut être plus fort que lui. On peut le ressusciter.
Il peut mourir, on peut le ressusciter.
Dieu. Puis c'est pas un petit personnage en plus.
Alors, au début, c'était un adulte, et puis à la fin, c'est un enfant, finalement.
Oui.
Qui a un nom autre que Dieu, d'ailleurs. Hein, c'est Piccolo au début, après c'est Dende. Dieu, c'est un peu... Mais ça montre quand même qu'il y a une certaine limite. La limite n'existe pas, en fait, dans Dragon Ball Z. Et
oui, surtout grâce aux boules de cristal.
Oui, voilà, en plus. Mais, parce que qui a créé les boules de cristal, c'est Dieu.
C'est sa fonction première, en fait, Dieu de Dragon Ball, c'est d'avoir créé les boules de cristal qui peuvent exaucer tous les vœux. Et c'est ça qui fait de Dragon Ball un monde sans limite, sans fin, parce qu'on peut ressusciter tout le monde. Et quand les boules sont mortes, on peut en trouver d'autres pour ressusciter les boules.
D'autres plus fortes qui permettent des trucs que les premières boules ne permettaient pas.
Et c'est ça qui fait la force de cet univers, sans limite, avec des personnages qui côtoient les dieux, qui devaient être potes avec eux, plus forts qu'eux. Vous m'avez parlé, monsieur Fabien, d'un des derniers épisodes de Dragon Ball Z Super, que je n'ai pas encore vu. Ou peut-être vous pouvez expliquer.
Oui, non, en fait, c'est... pendant un voyage, en fait, il se trouve qu'il y a... je crois que c'est le roi d'une galaxie qui est là et puis qui est donc là il y a tout le monde là qui est le roi Beerus, le roi de la destruction dont on a parlé tout à l'heure. Je crois qu'il y a deux caillots aussi. Et enfin, etc. Et donc il y a ce roi là qui se dit ah mais ils font pas du tout attention à moi alors que je suis un roi de la galaxie. Et il y a enfin un autre qui leur dit oui mais en même temps enfin tu vois il parle au roi Beerus, enfin il parle à tous les dieux et donc c'est normal que enfin ils s'en foutent complètement de ce roi qui est très important dans sa galaxie peut-être mais qui est pour ces personnages là ne vaut rien parce que eux sont enfin pour eux personne n'est impressionnant finalement.
Ils côtoient
tous les dieux, les surpassent tous.
Et ce qui est attachant, ce qui est fort aussi, c'est que ce sont des personnages, Sangoku, Krilin, qu'on a vu très petits, très faibles, très rigolos, voilà, qui devaient ressembler finalement à notre petit frère qui fait des conneries. Et finalement, et ce sont ces mêmes personnages qu'on a suivis depuis le début, qui hein, finissent par côtoyer les dieux, à même pas les calculer, à, voilà, à être au-dessus, quoi. Et c'est ça, ce monde sans fin que Demi-Portion compare à notre monde actuel.
Et puis peut-être aussi cette volonté de dépasser toujours ses limites, donc peut-être pour revenir à un aspect qu'on évoquait tout à l'heure, donc qu'est-ce qui fait que le rap s'intéresse à Dragon Ball Z? Outre ça, c'est aussi parce que justement ils sont toujours en train de dépasser ses limites, leurs limites, et donc par exemple aussi le personnage du Saiyan, la race du Saiyan, quand il approche de la mort en fait, quand il est blessé gravement, en ressort beaucoup plus fort en fait, il a un boost de pouvoir à chaque fois. Donc on parlait de Nietzsche tout à l'heure avec la mort de Dieu, et donc on pourrait revenir dessus. Parce qu'en effet, enfin, ce qui ne tue pas le Saiyan le rend plus fort. Et donc, enfin, toujours là, enfin, même si on pourrait aller plus loin en disant que...
Et ce qui est bizarre quand même, c'est que Vegeta, qui est très orgueilleux, a conscience de ses limites, alors que Sangoku reste très modeste, tout en n'ayant jamais de limite. Lui, c'est celui qui n'a vraiment aucune limite. Et du coup, il se vante jamais de cette force-là, il est pas conscient du potentiel qu'il a. Et...
Si, il est conscient quand même.
Oui, mais il s'en amuse.
Il y a toujours un moment, bien sûr, où il prend toutes les forces de la nature, etc. Mais avant ça, il a quand même un air naïf qui fait qu'on
s'en fiche. Bah oui, c'est ça. Enfin, lui, il est pas du tout orgueilleux, en fait, par rapport à Vegeta. Et lui, c'est juste que ça l'amuse. Et, enfin, dès qu'il dit, genre, ah, il y a quelqu'un de super fort, il fait là, ah ouais, trop bien.
Mais, oui, voilà,
super fort, on va pouvoir combattre.
C'est l'éternel gamin.
C'est pas, ouais, voilà, c'est ça.
C'est ça, c'est en fait un peu le jeu mise comme valeur totale et absolue avec Sangoku. Quand il tue le plus fort de tous les méchants de Dragon Ball Z, bouh, il fait le vœu que ce méchant revienne sous une forme plus sympa pour pouvoir se rebattre avec lui, quoi. Donc c'est ça, c'est-à-dire le combat finalement qui met en jeu la survie de la Terre, de l'univers. Si Sangoku avait pas gagné, l'univers aurait été détruit. Bah, il est tourné en jeu, en dérision, et
on voit, enfin, après, ça vaut un peu pour tous les Saiyans, parce qu'à chaque fois, pour savoir qui va combattre, par exemple, dans le vaisseau de Babidi, là, ils font pierre, papier, ciseaux pour savoir qui va combattre en premier, et à chaque fois, il y en a un qui dit, oh, comment ça, vous avez pas le combat tous à la fois? Ils sont là, ah ben non, c'est pas rigolo, on va plutôt faire le jeu avant pour essayer de voir qui combat en premier, parce qu'ils préfèrent faire un combat. Parce que aussi, ils ont commencé dans les tournois, mondial d'arts martiaux, où ça reste quand même un jeu, un combat comme ça, un contre un. Et donc il y a toujours cette dimension de jeu, de défi, plus que de sauver la Terre, finalement.
Même si à chaque fois, c'est l'enjeu aussi de sauver la Terre. Et d'ailleurs, en fait, j'étais en train de penser, c'est un faux enjeu, puisque finalement, la Terre, souvent, on peut la récupérer grâce au Dragon Ball. Et c'est pas pour. Je suis en train de me demander si finalement, c'est un enjeu de la Terre qui est susceptible d'être détruite. C'est pas pour cacher le fait que finalement on est tout le temps dans un jeu. C'est un faux enjeu en fait, cette Terre qui est susceptible d'être détruite parce qu'elle sera jamais détruite finalement. On sait que ça va... Dans un des derniers films, la Terre est détruite par Freezer qui revient, mais il y a finalement un autre qui a un pouvoir de remonter le temps et la Terre n'est pas détruite. Voilà. C'est une farce finalement, cette Terre qui en proie à la destruction. C'est pour cacher le fait que...
Oui, enfin, c'est aussi pour, enfin, qu'elle est toujours en proie à la destruction, c'est pour montrer qu'ils sont tellement forts qu'ils arrivent toujours à échapper à cette destruction qui plane toujours dessus, quand même.
Peut-être. Alors, est-ce que vous maintenez, monsieur Bertrand Fibien, ce que vous m'avez dit en off, comme quoi Dragon Ball est le manga le moins politique du monde? Le moins politique qui soit.
Alors, du monde qui soit, qui je ne l'ai pas tous lu, mais je maintiens que quand même, il a une... Enfin, par rapport à tous les mangas qui ont été connus, démocratisés en France, après, ils ont tous une portée un peu plus politique. Un peu.
C'est logique, mais il n'y a pas des conséquences un peu de Hiroshima, etc. Ils ont pris des bombes sur la tête. Du coup, maintenant, on va essayer de penser à un univers où c'est pas possible de mourir. Et finalement, le monde se régénère. Quoi, parce que quand ils ont pris des bombes sur la tête, ils se sont dit bon, il y a une possibilité que la Terre explose, que, enfin, que la Terre explose. Peut-être pas forcément
du monde, quoi.
Voilà, qui, ils ont entrevu la possibilité de la fin du monde, du moins de la fin d'un pays, de le leur. Et du coup, ils ont créé un univers pour se réfugier et pour s'éloigner de ces peurs-là.
Mais alors, la référence peut-être qu'il y aurait à ça, ce serait la destruction de la Terre à cause de la du docteur Géraud. Ici, qu'aurait créé le cyborg, oui. C'est aussi une manière de montrer que la.
Ouais, il y a toujours
c'est pas une bombe, c'est que la technologie est allée trop loin, ouais. Et elle va détruire la Terre. Ouais. Comme Hiroshima. Et c'est ce qu'on retrouve énormément dans.
Il y a toujours l'image du
divers mangas. Hein. Et que oui, on retrouve moins. Enfin, donc il y a ce côté cyborg-là qui peut-être pourrait aller dans ce sens-là.
Il y a toujours l'image du savant fou aussi bien qui fait le bien, donc ce qui a créé la Capsule Corporation et que donc le docteur maléfique. Donc c'est, je pense que la référence elle est présente. Oui.
Tout à fait, sauf qu'il y en a un qui fait le bien et l'autre qui fait le mal, peut-être, je sais pas si.
Oui, oui.
Ouais. Donc c'est ambiguïté finalement, il a pas tranché.
Et puis, celui qui fait le bien permet quand même d'envoyer Trunks dans le futur pour sauver la Terre en fait des cyborgs.
Oui, ça c'est Bulma quand même.
Ouais, ça c'est Bulma.
C'est Bulma, mais qui c'est qui a construit la Corporation Capsule?
Oui, grâce à son, oui, c'est son père qui l'a
construit. Ouais, donc en gros, c'est le.
Oui, bah oui, parce que Bulma, enfin del le début, Bulma, c'est, elle représente celle qui a les capsules justement, et c'est la une technologie avancée quand même. Donc, ouais.
En tout cas, on s'est un peu éloigné du rap avec tout ça. Mais la chanson de Demi Portion nous avait bien fait sentir la pertinence de la comparaison entre Dragon Ball et notre univers à nous. Hein, alors avec Dragon Ball, un univers sans limite finalement, où tout est possible et où la mort elle n'arrive jamais. Et voilà, et notre monde à nous qui est limité, où la mort existe. Et la boucle de Tapion a pu faire ressortir ce côté mélancolique. Et c'est pour montrer que le rap a pu, voilà, grâce à cette référence à Tapion, à cette comparaison avec notre monde, faire ressortir un peu le dark side qu'il y a, le côté obscur qu'il y a dans Dragon Ball. En tout cas, cette possibilité d'entrevoir un monde où tout ne va pas bien, hein, le monde de Tapion ou le monde de Trunks du futur. Voilà, hein. Et c'est sur ça qu'on va terminer cette émission du jour, sur le rap, la comparaison entre le rap et Dragon Ball. Et donc j'aimerais faire quelques petites dédicaces pour finir cette émission, hein. Alors dédicace à Gunner, le rappeur de YouTube qui a fait cette chanson, à Minocha TV qui a compilé des sons YouTube dans lesquels on s'est inspiré pour faire cette émission, hein. Et aussi à
Dorothée.
non,
surtout pas. Et la fille qui faisait la Ariane, je sais.
Ariane Carletti. Non,
ça,
non,
ça vaut le coup d'aller voir le clip, allez-y, parce que c'est vraiment génial.
Et la dernière dédicace sera pour mon pote le Doc Samado, avec qui j'ai grandi autour de Dragon Ball. King.